you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Élise Le. Réalisation Lise Combe. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Anaëlle Pigeat et Florian Guettet pour parler ensemble de couples modernes jusqu'au 20 août au centre Pompidou-Metz. Nous parlerons également de Enfer et fantômes d'Asie au musée du Quai Branly et puis une double exposition à la galerie Marianne Goodman qui réunit Tacitadine et Julie Meretout. Aïssa Tundoy est là pour surveiller fil Twitter et Facebook, pour donner à entendre vos commentaires ou relayer vos questions sur notre sommaire. Et puis en fin d'émission, des cadeaux à gagner. Ce soir, des coffrets DVD, 8 heures ne font pas un jour. C'est une série inédite en France et en DVD, en tout cas de Rainer Werner Fassbinder. C'est distribué par Carlotta. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au centre Pompidou-Metz pour y découvrir l'exposition « Couples modernes » dont les commissaires sont Emma Lavigne, Jen Allison, Elia Biezowski et Chloé Pizio. Je précise que la scénographie est due à Pascal Rodriguez et Perrine Villemur. Comme son titre l'indique, cette exposition, qui est réalisée en collaboration avec le Barbican Center de Londres, est consacrée aux couples de créateurs. Évidemment, Pablo Picasso, Dora Maar, Robert et Sonia Delaunay, mais aussi Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz, Charles et Ray Eames, d'autres encore. Interdisciplinaire, une exposition qui essaye de savoir en quoi la relation amoureuse peut intervenir dans le processus créatif. Avec des cas de figure, on va le voir très varié.
Couple of swells, we stop at the best hotels, but we prefer the country far away from the city smells. We're a couple of sports, the pride of the tennis courts. In June, July, and August, we look cute when we're dressed in shorts.
The Vanderbilts have asked us up for tea.
We don't know how to get there, no siree,
no siree.
We would sail up the avenue, but we haven't got a yacht.
We would drive up the avenue, but the horse we had was shot.
We would ride on a trolley car, but we haven't got the fare,
so we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue till we're there.
En voilà un couple. Judy Garland, Fred Astaire. Bon, je l'aime mieux avec Ginger Rogers, ou même Sid Charisse d'ailleurs, mais j'aime Judy Garland aussi. Je ne crois pas que nous soyons là pour parler de ça, mais plutôt de l'exposition à voir en ce moment au centre Pompidou-Metz, couple moderne. Anaëlle Pigeat.
C'est un roman russe, cette exposition.
Non, la parole à votre voisin, du coup. Non, c'est un roman russe, développé.
C'est une belle histoire.
C'est une exposition dans laquelle on se promène avec délice pour aller à la rencontre de la personnalité des artistes. Ce qui est en fait une chose assez peu commune quand on se promène dans une grande exposition historique comme ça. C'est une exposition qui a beaucoup de mérite, qui a le mérite donc de faire d'avoir d'abord un côté extraordinairement romanesque parce que on découvre toutes sortes de couples à deux, à trois, mixtes, non mixtes, des passions, des tragédies, des idylles, des groupes qui font rire aux éclats comme le cas de Bloomsbury qui dans laquelle la fille de Vanessa Bell a épousé l'amant de l'amant de sa mère avec qui elle a eu 5 enfants. C'est une exposition...
Repassez-vous la phrase au ralenti en podcast, hein, pour bien comprendre.
C'est une exposition qui a le mérite de faire découvrir aussi beaucoup d'artistes oubliés, beaucoup de femmes qui sont restées dans l'ombre de leur mari. Par exemple, Benedetta, la femme de Marinetti, qui, on voit un très très beau tableau sur l'expérience de l'air. On l'a complètement, enfin, on a largement laissé de côté le tactilisme dont elle était une des représentantes, et c'est vraiment un très très beau tableau qu'on voit là. C'est une exposition qui parle en fait à la fois de l'effet de ces relations sur les œuvres, et en fait c'est une exposition sur l'invisible, parce que ça conduit, une fois qu'on a franchi cette étape de ces histoires, de ces anecdotes, à une observation des œuvres qui est extrêmement fine et qui permet d'observer des variations très fines, par exemple entre Annie et Joseph Albers, qui ont des œuvres proches mais en fait de sensibilités très différentes. On voit aussi des histoires qui se lisent comme un journal dans des œuvres, par exemple dans la relation entre Anna Hoesch et Raoul Haussmann, qui se passe mal, et on voit par exemple un collage extrêmement dur qui s'appelle Le Père en allemand, et dans lequel on voit la détérioration de cette relation, si bien que Anna Hoesch ensuite quitte Raoul Haussmann et se lance dans une autre histoire avec l'écrivaine Till Brugmann. Donc en fait c'est une exposition qui parle à la fois de la vie et qui parle des œuvres. Quoi demander de plus?
Ben, on va le demander à Florian Guettet.
Effectivement, je trouve que c'est une exposition qui est bien pensée, parce qu'elle évite deux écueils. Le premier, c'est de recentrer le couple sur la vie de famille. Ça, cette partie-là est plus ou moins éludée. On ne parle pas vraiment des enfants, des grands-parents, etc. On est vraiment recentré sur le duo-duel, qui est parfois un trio d'ailleurs, et parfois plus ouvert que ça encore. Et puis qui évite aussi la vision tout romantique de l'amour, etc., pour recentrer vraiment sur la collaboration professionnelle. Et je trouve ça assez juste, en fait, dans l'intention. Alors la scénographie, elle est à l'image de ça, ce sont des compartiments, pour histoire de montrer que chaque histoire, bah, finalement, est isolée, a sa logique propre. Il n'y a pas de transversalité, il n'y a pas de grandes questions posées. C'est pas une exposition qui expose, pour être tout à fait franc. C'est pas une exposition qui va se fourvoyer en questionnement plus ou moins artificiel sur la nature du couple, ou le rattacher à la vision du couple dans la modernité. Alors, c'est un petit peu abordé, mais on n'insiste pas plus que ça.
Là, c'est pas plus mal, à vous
exactement.
Entendre.
Exactement. Parce que je trouve que ça respecte vraiment l'authenticité de ce qu'est un couple, ça se construit toujours de façon singulière, alors même si on a des modèles, etc., mais on essaye toujours d'échapper à ces modèles-là, et surtout, il me semble, quand on est artiste. Donc je rends grâce au commissaire d'avoir pensé l'exposition comme ça. Alors on est accueilli par un couple de danseurs qui sont des mannequins, alors faits de carton, de briques et de broc, j'ai envie de dire, qui renvoient donc à l'œuvre de Lavinia Schultz et Walter Hoth, qui a une particularité, puisque c'était un couple vraiment passionnel. Donc elle est au départ costumière et scénographe, lui il est danseur. Ils sont dans le théâtre expressionniste naissant, et puis ils refusent ça tous les deux. Ils vont se mettre ensemble, et pendant 4 ans ils vont construire une œuvre assez fulgurante, foisonnante, très inventive, qui va évidemment tourner court, parce que dans le ménage, eh bien finalement Lavinia, qui est une grande passionnée, va difficilement supporter le côté très dépressif de son compagnon. Elle va le tuer, hein, et elle va se suicider après. Et je trouve que c'était une bonne entrée en matière.
Introduction.
Ouais, mais oui, parce qu'en fait, quand on les voit, ces deux danseurs, on voit l'homme qui est plutôt sur le devant de la scène, la femme qui est un petit peu au second plan, et puis elle semble lui souffler à l'oreille. Je me suis dit, ah ben voilà, on va se retrouver dans la femme qui est toujours au second plan, qui est la muse, qui inspire, etc. Enfin, on a eu vraiment une image de muse. Et puis finalement, pas du tout, parce que c'est un couple tragique, et on va se retrouver entre ces deux pôles-là, constamment, entre effectivement la force, on va dire l'énergie libidinale qui se dégage du couple et qui peut avoir quelque chose de profondément inspirant, et puis de l'autre côté aussi les tensions entre les deux, les rivalités, la misogynie énorme, parce que finalement le sous-texte de ça, malgré tout, c'est une histoire d'émancipation féminine. Et là, on voit vraiment que la place des femmes est revalorisée. Effectivement, vous avez parlé de Benedetta Cappa, qui était la femme de Marinetti, qui est sans doute un des artistes les plus misogynes, hein, de cette période-là, à tel point que Valentine de Saint-Point a opposé une réponse au manifeste futuriste, qui est le manifeste de la femme futuriste, qu'on voit aussi dans l'exposition. Donc on a ces femmes-là, et on a notamment aussi Dora Maar. Alors Dora Maar, pour moi, c'était une découverte, même si évidemment tout le monde la connaît, etc. Mais on a tendance justement à la connaître comme étant la compagne de Picasso, la muse de Picasso, alors qu'en fait, elle a une histoire beaucoup plus compliquée. Elle était connue bien avant de lui, avec ses photomontages absolument sublimes, dont Le Simulateur, une pièce de 1936, si je me souviens bien, et un sans-titre onirique avec deux garçons qui sont dans un porté, dans une mise en scène assez romanisante. Et donc elle a ce succès-là, elle rencontre Picasso, Picasso en fait plus ou moins sa muse, elle se met à la peinture, mais elle n'arrive pas à rivaliser avec lui, avec la peinture, et elle va être finalement figée dans cette posture de muse. Et elle prend une photo assez extraordinaire de tous ses portraits dans l'atelier de son compagnon, qui va finalement figer ce destin un peu tragique d'une femme reléguée derrière l'image. Donc j'ai trouvé que voilà, il y avait effectivement beaucoup de profusion de tous ces destins individuels auxquels on va se rapporter, effectivement, avec une grande place sur les femmes, ce qui explique peut-être qu'il y a une sous-représentativité des couples homosexuels hommes.
Corinne Rondeau, enfin.
Oui, alors, moi, je serais pas allée voir cette exposition du tout, parce que déjà, couple moderne, ça, je serais pas allée, vous voyez, et j'aurais eu tort, voilà. Parce que l'exposition est formidable, je trouve que vraiment la scénographie est d'une très grande sobriété, elle est claire, effectivement, c'est des petits espaces, mais avec une justesse de choix qui est fait, qui est absolument formidable. Alors, donc c'est un grand régal d'y aller, parce que c'est pas n'importe quelles œuvres qui sont présentées. Et puis moi, j'avais un marqueur, enfin j'avais un curseur, avant d'y aller, c'est Picasso. Est-ce que Picasso y sera? Bon, normalement, il devrait y être. Et puis, qui? Parce que, un nombre de muses. Mais le problème, c'est que Dora Maar n'est pas une muse. Et donc, ils ont mis Dora Maar dans une espèce de cube qui est pas joyeux du tout. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que ça montre aussi, parce que quand on connaît un peu l'histoire, au-delà de ce qu'on peut dire de manière générale, c'est vraiment fort, c'est vraiment juste. C'est exactement les pièces qu'il faut montrer par rapport à un moment de la créativité de Picasso, par rapport justement à Dora Maar, qui est une des plus grandes artistes absolument oubliée de son travail de collage et de photographe, puisque bon, il lui a dit va faire de la peinture, ma chérie.
Ne me fais pas d'ombre.
Voilà, mais indépendamment de ça, parce qu'on connaît l'histoire, mais pour tout le reste, mais on connaît pas l'histoire, et puis on s'en fout, je vais vous dire. Parce que alors moi, je suis pas du tout passée à l'intérieur de comment ils ont vécu, etc. J'ai voulu regarder vraiment comment le dialogue se faisait, parce que je crois que cette exposition, pour moi, elle est très importante, à la fois, pas pour son projet, parce que je vous dis, je ne serais pas allée, mais elle est très importante justement sur la complicité. Et la complicité, c'est regarder. Et la manière dont, à deux, on regarde les choses. Parce que ce qu'il y a entre deux individus, c'est ce qui compte. C'est-à-dire ce qu'ils font, ce sont les objets qu'il y a entre eux. Et cette chose est venue quand il y a eu Charles Hilary Ames, où vous avez une reconstitution vague, en fait, d'une maison où, elle le retrouve pour qu'il finisse de cette maison
de
qui est
concevoir.
La Case Study Number 8. Bref, peu importe, vous savez. Donc, il y a une reconstitution comme ça de la façade qui ressemble un peu à De Stijl, parce que de l'autre côté, vous avez Molinage et j'ai oublié son prénom à Madame Molinage. Bon, je sais plus. Et de l'autre côté, vous avez Germaine Krull avec Joris Ivens. Et de l'autre côté, elle en a eu deux. Bon, voilà. Et je veux dire que l'exposition, elle est bien pensée au niveau des formes, au niveau... Non, mais peu importe, je veux dire, ce qui compte, c'est ce qu'ils font. Et en fait, ce qu'ils font, ça se voit à travers les formes qu'ils manipulent, qu'ils voient. Et après, si on veut chercher des singularités, si on veut voir des... Je veux dire, par exemple, Sonia Delaunay et Robert Delaunay, c'est un peu comme Annie et Joseph Albers. C'est un couple où on partage une sensibilité presque commune, mais on voit que les femmes sont plus concrètes que les garçons, par exemple. Mais ça, on s'en fout. Finalement, parce qu'on va voir que quand même les femmes réalisent beaucoup plus de choses en termes d'objets, de fabrication, on va dire.
Et Sonia Delaunay, elle a vécu quoi, 30 ou 40 ans de plus que son mari aussi, ce qui peut aider quand même pour réaliser les choses.
Non, je crois pas. Au niveau du trait,
une longue partie.
Oui, bien sûr, mais au niveau du trait, par exemple, elle est beaucoup plus, je dirais, sèche que Robert Delaunay, qui est plus rond, plus idéaliste aussi, comme d'ailleurs Joseph Albers par rapport à la Annie Albers, peu importe. Et moi, j'ai adoré cette exposition parce qu'on fait vraiment une traversée de la modernité On ne s'embête pas avec des discours de cartel hyper pénibles. On est dans des boîtes où il y a de l'énergie. Vous avez par exemple Rodchenko et Stepanova, où là, il y a un film d'un anonyme où il fume des clopes, il remue la tête, il claque des mains, c'est absolument génial. Mais on voit aussi la manière dont ils ont de fabriquer, ou même les tableaux qu'ils font d'autoportraits, où ça se croise et ça se ressemble, et en même temps, ils sont dans une joie et une activité débordante, et ça se voit. On a les plus intimistes, Vera da Silva avec Arpad Sinez, où il y a un dialogue de portrait, où ils se peignent mutuellement, et puis il y a une photo d'eux, où ils sont en train de lire en même temps un cahier d'art. Et en fait, l'accrochage est parfaitement adapté au travail entre les face-à-face, les dialogues et la reconstitution en fait de Charles et Ray Ames. C'est ça. Il y a un film qui montre par fragments, par photographie, hein, par photogramme. C'est pas une image mobile, c'est pas un film. Je veux dire, bon, c'est un montage d'images. Et à l'intérieur de ce photomontage, on voit que la vie n'est qu'un, ne sont que des fragments. Cette exposition, c'est une multitude de fragments qui nous est proposé. On n'a pas la vie des gens, on n'a pas leur vie de couple, on n'a pas non plus la manière dont ils vivaient, parce que sinon il faudrait lire les textes et savoir que Dora Maar, elle était rentrée dans le cercle sadomasochiste et qu'elle était la compagne de Georges Bataille avant notre cher Picasso. Enfin bon, bref, voilà. Et c'est une exposition absolument merveilleuse.
Merveilleuse, Annaëlle Pigeat.
Il y a quand même, effectivement, on rentre pas à aucun moment, ça, l'exposition ne se perd dans l'anecdote, mais il y a un thème.
C'est génial,
thème,
ça,
et c'est absolument
parce
génial.
Parce que pour ce type d'expo, c'est la catastrophe, sinon.
Et il y a un thème qui est un peu sous-jacent à toutes ces petites cellules et qui est très, qui montrait de manière très belle, c'est celui de la maison. Il y a un certain nombre de domiciles ou d'ateliers qui sont évoqués et qui sont aussi une manière d'appréhender les œuvres de ces artistes. Il y a par exemple les deux ateliers de Frida Kahlo et de Diego Rivera qui sont opposés, qui sont face à face et qui sont complètement séparés. Il y a l'atelier d'Arpad Sinez et de Vera da Silva qui est raconté dans le catalogue, et le catalogue, une parenthèse, est un dictionnaire qui complète en fait l'exposition de manière tout à fait passionnante, avec encore plus de couples évoqués. Il y a l'histoire extraordinaire de la villa commandée par Jean Badovici à Eileen Gray pour lui, dont le nom E1027 est un entrelacement de leurs deux noms, de leurs deux initiales, sachant que Eileen Gray se construit pour elle-même un cabanon un peu plus loin sur la côte. Et puis il y a la maison que partagent Ernst et Leonora Carrington, qui devient une maison œuvre dont on sait la suite pendant la guerre, qui sera mise à sac pendant la guerre.
On le sait mieux si vous le dites.
On le sait mieux si je le dis, absolument, c'est pour ça que je le dis.
Florian Guettet.
Corinne disait que Picasso était un marqueur. L'autre marqueur, me semble-t-il, enfin qui pourrait l'être, en tout cas, ce serait Duchamp, parce qu'il pourrait constituer une sorte de point opposé. Alors, finalement, Picasso, c'est un peu le Matisse qui va recouvrir dans tous les sens du terme ses compagnes, tandis que Marcel Duchamp, c'est celui qui prend un alter ego féminin, qui va travailler avec Maria Martins, donc il est dans une relation adultérine avec elle, puisqu'elle est l'épouse de l'ambassadeur brésilien aux États-Unis, mais ça n'empêche pas d'avoir comme ça une sorte d'intimité en fait, qui va exposer, qui va devenir le centre de leur œuvre. On voit d'ailleurs des objets assez chargés, évidemment, avec des références aux organes sexuels, à chasteté, etc. Et c'est vrai que ce Duchamp là, il commence à introduire déjà dans le sorte de carcan que peut être le couple, une idée de liberté, d'émancipation sur la question sexuelle et la question du genre. Et c'est vrai que dans la fusion sexuelle entre certains de ces couples là, se réinventent vraiment les questions de genre. Ce qui fait que quand on arrive sur cette dernière partie de l'exposition, on a une présence plus marquée des références, on va dire, sexuelles, et notamment chez les communautés de lesbiennes, avec Roman Brooks, René Vivien. On a parlé tout à l'heure de Till Bergman, pardon, et Anna Hush. On pourrait parler de Gabriele D'Annunzio, on peut parler du Temple de l'Amitié, etc., qui sont effectivement des sortes de d'antres. Alors là, on n'est plus dans le foyer, on est effectivement dans la maison, mais on n'est plus dans le foyer, on est justement, on réinvente. Alors c'est, justement, ça va être le temple où les sortes de cercles d'amitié, en fait, qui sont en fait des cercles de sororité. Mais on voit que le couple, finalement, quand il touche à la sexualité, une sexualité qui est un peu moins sociale, un peu moins visible, eh bien, il donne lieu lui-même à une forme d'inventivité et le couple devient une œuvre. Et on le découvre, moi, en tout cas, je l'ai découvert qu'à la fin du parcours, dans cette section, on va dire, un peu plus érotisée.
Annaëlle, vous avez un petit mot à ajouter ?
Et tout ça est d'une contemporanéité extraordinaire et trouve des échos dans la création aujourd'hui qui donne terriblement envie d'avoir une suite de l'exposition.
Corinne Rondeau, enfin.
Oui. Alors, moi, je retiendrai Marianne von Verevkin, la compagne d'Alex von Jelewski, mais il est dans la même salle que Kandinsky et la compagne de Kandinsky, Gabriel Munter. Et alors, la Marianne, c'est vraiment une révélation en peinture, à voir absolument.
C'est-à-dire, elle fait quoi ?
Elle fait, ils viennent de Munich, hein, elle est vraiment quasiment, comme le disait Franz Marc, l'instigatrice de l'âme de l'expressionnisme à Munich. Donc là-dessus, je ne le savais pas. Et on voit un travail qui est à la fois figuratif, mais en même temps une tendance à l'abstraction que son mari marque davantage. Mais en fait, elle a beaucoup plus, je dirais, de singularité, de force, de colorisme, alors que lui, il a un rapport à la peinture plus laborieux, je dirais. Donc pour moi, c'est vraiment des visions très étonnantes, très incarnées, même si elles sont très colorées et presque fantastiques. Et je dirais que même ça fait pâlir Kandinsky, vraiment. La deuxième chose, c'est effectivement toute la partie parce que effectivement, il y a beaucoup de femmes, et moi, je suis contente que cette expo ne manifeste pas le désir clair de la parité. Les femmes, mon Dieu, on les a oubliées. Mais les femmes ont toujours été là. Voilà, déjà, j'ai juste envie de le dire, qu'ensuite ces femmes produisent à une époque où c'est possible. C'est une époque, je veux dire, de libération aussi politique. Donc quand on a le temple de l'amitié, moi je suis contente effectivement de voir ces photographies que j'ignorais de Nathalie Clifford Barnier devant son temple à Paris, du temple de l'amitié. Et effectivement, cette académie des femmes qu'elle a créée avec Gertrude Stein et René Vivien, comme vous le disiez, ou Juna Barnes. Où est Juna Barnes? On rêverait, mais bon, elle disait que non. Cette Amazon, et avec Romain Brooks, elles ont vécu longtemps, et dans le sud de la France, elles ont quand même inventé, enfin, ils ont créé une maison, puisque vous parlez de maison, chère Annaëlle, la maison, la villa, trait d'union. Il y a une partie à gauche pour l'une, la partie à droite pour l'autre, et puis il y a la cuisine pour discuter. Eh bien, toutes les maisons devraient être faites comme ça, puisqu'elles ont inventé, finalement, le couple moderne, contemporain, ultra-contemporain, que tout le monde rêve, indépendamment de savoir ce qu'on a entre les jambes. Et au-delà de ça, Nancy Cunard, qui est génialissime, la première, on va dire, compagne d'un Aragon, mais qui a découvert effectivement la ségrégation américaine et qui nous a permis de créer éditer avec ses éditions, la Negro Anthologie, première édition nègre, c'est-à-dire il y a de la culture aussi chez des gens formidables dont elle a été très amoureuse, Henry Crowder. Un jazzman qu'on peut écouter dans l'exposition. Moi, j'adore cette exposition, je crois que je vais y revenir parce que merde alors.
Flûte.
Flûte alors.
Plus exactement. Non, vous êtes tellement passionnée, Corinne Rondeau, par Couple Moderne, à découvrir jusqu'au 20 août au centre Pompidou-Metz. Nul doute que vous aurez toutes trois donné très envie à celles et ceux qui nous écoutent. Et puis donc, catalogue de l'exposition coédité par Gallimard et le centre Pompidou-Metz. À suivre dans la dispute L'Enfer au Quai Branly. Et deux amis à la galerie Marianne Goodman.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques en prenant des risques, puisque nous allons devoir nous confronter aux enfers et fantômes d'Asie. Titre de l'exposition en cours au musée du Quai Branly, Jacques Chirac dans Le Commissaire et Julien Rousseau dans une scénographie de Nathalie Crinière. Qu'est-ce qu'on y voit ? Réponse avec nos critiques dans un instant.
Thank you.
évidemment, il faut bien que les films de Kiyoshi Kurosawa soient représentés dans cette exposition du musée du Quai Branly. Là, c'était la bande originale du film Creepy, qui porte bien son nom. Florian Guettet, avez-vous eu peur au musée du Quai Branly?
Alors, j'ai eu peur comme dans un train fantôme.
Voilà. Bah voilà. Mais tout est beaucoup... dit, donc on peut passer au sujet suivant.
Non, mais j'aime beaucoup être fantôme. Non, c'est une exposition qui a des airs de spectacle, voire de parc d'attractions, hein, avec elle est extrêmement animée, avec une scénographie très présente, mise en scène véritablement. Ouais. Alors on a des projections, des démonstrations de théâtre d'ombre, un hologramme, des installations de lanternes, des sculptures géantes et même des jeux d'arcade. Donc vraiment une exposition qui pourrait être dont la forme en tout cas est à l'image de son objet. Mais cette dimension spectaculaire là, elle négocie aussi avec un mode d'exposition, on va dire plus traditionnel, d'objets cette fois liturgique, souvent emprunté à différentes formes de rituels bouddhistes, avec des autels, des rouleaux anciens, notamment du Xe siècle, des grottes de Duang, des vases, des masques, enfin des objets un peu plus précieux qu'on s'attendait à voir. Et c'est justement ce que met en relief cette exposition-là, c'est cette tension entre l'origine religieuse du sujet et puis sa réappropriation spectaculaire dans des arts populaires de masse, dans la pop culture, hein, et jusqu'à aujourd'hui, dans le D-horror, c'est-à-dire ce genre cinématographique un peu voilà héritier des séries Z sur... les films d'épouvante. Alors, effectivement, on a l'impression de traverser, alors c'est une riche exposition, hein, on a l'impression vraiment de la traverser comme une épopée, une sorte d'épopée infernale qui, effectivement, se prête bien à cinéma, à théâtre, en tout cas à dramaturgie d'une façon générale. Et ce qui m'est apparu de façon assez claire, c'est comment, en fait, pour rendre... compte des morts, il fallait peut-être surajouter de la vie. Et c'est une exposition que j'ai trouvée extrêmement vivante, extrêmement animée, voire même parfois bruyante, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus solennel, un peu plus silencieux. Mais non, on a quelque chose d'assez grotesque, enfantin parfois, avec ces masques très très colorés, très raffinés aussi, hein, mais très très colorés, avec effectivement la proximité, la promiscuité entre des figurines d'enfants, des figurines de jeux en fait, des objets sacrés qu'on n'osera pas toucher, qu'on osera voir d'un petit peu plus loin. Le cinéma est très très important. Alors le cinéma en lui-même, de toute façon, c'est un art fantomatique, c'est un art des apparitions spectrales. Donc ça me paraît assez logique. Et effectivement, depuis les années 60, avec surtout Nobuo Nakagawa, il est devenu quand même le médium par lequel se traduit, ou en tout cas se diffuse le plus largement, ces représentations de fantômes qui ne sont pas dans toute l'Asie, d'ailleurs si récentes que ça, puisqu'on se rend compte que le Yurei, par exemple, au Japon, l'image du fantôme est vraiment codifiée et créée à partir du 17e, fin 17e, voire et surtout 18e. Donc c'est assez récent, c'est une histoire vraiment, vraiment récente qui deal avec cette modernité-là aussi de l'Asie. Alors, on trouve dans le cinéma des représentations des enfers assez assez caricaturales, enfin en tout cas assez attendues, on va dire, mais aussi des choses un peu plus fines. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je suis allé jusqu'au frisson ou à l'effroi, hein, c'est peut-être pas peut-être un petit peu trop fort, mais en tout cas très séduit par cette esthétique-là qui à la fois emprunte une sorte de romantisme noir et qui est toujours colorée ou teintée d'un certain humour.
Bien, après cette belle introduction de Florian Guettet, parole à Corinne Rondeau.
Ah bah écoutez, moi j'ai eu une trouille d'enfer. Bah non, mais parce que l'exposition, il y a beaucoup de pièces, c'est vrai. Il faut y aller avec l'idée de se faire plaisir, parce que sinon on va vite s'ennuyer. Si on n'aime pas justement les trains fantômes, parce qu'effectivement la forme du train fantôme est assez claire pour nous. C'est une histoire qu'on croit absolument connaître, parce que quand on connaît un peu le cinéma japonais et qu'on connaît Okuzai et que la femme au long cou, tout ça, bon, on se dit bon, on connaît un petit. Et puis en fait, c'est une qui a dit ça? Non, je vous pose une colle. C'est ma colle. Alors la longue intimité des peuples d'Asie avec la souffrance qui exige que même la douleur soit ornée.
C'est Malraux?
Non, c'est Chris Marker.
J'ai mal soufflé, Corinne.
Ben, vous savez, j'articule mal les noms. Alors forcément, vous avez raté votre entrée.
Bon,
mince, alors.
Ça aurait pu être Malraux, hein.
Ben oui.
Donc c'est Chris Marker a écrit des discours de Malraux.
C'est non, je crois pas. Donc bon, c'est dans
Chris
Sans
Marker
Soleil.
Et beaucoup de vie, vous savez.
Oui, mais comme on a fait l'expo Sans Soleil, tout ça m'est revenu. Alors je me suis dit bon, peut-être bon. Que. Et donc c'est ça qui est assez plaisant dans cette exposition, c'est que d'abord elle nous attrape à l'endroit, je dirais, de nos propres enfers, puisque le début, ce sont des extraits de films des Les Enfers, Nakagawa, comme vous l'avez cité, et qui a un côté un peu à la Nosferatu, vous savez, après qu'il eut passé le pont, les fantômes viennent vers ta rencontre. Voilà.
Là, je la connais, de citation. Voilà.
Et donc ça, c'est
bah, Murnau.
Voilà, Nosferatu. Et donc, on rentre, effectivement, on rentre dans ce qu'on va... je veux dire, ce qui est plus habituel au Quai Branly, c'est-à-dire bon, des estampes, des gravures, etc. Et puis tout de suite, après, à nouveau du cinéma. Et c'est vrai que la fonction je veux dire, dynamique de l'exposition, c'est sa force imagère. Mmh. Et ne pas avoir oublié effectivement toute cette culture d'Asie du Sud, continentale, donc jusqu'au Japon, Thaïlande, Cambodge, Chine, Corée, ça fait beaucoup de monde. Mais on dégage quand même de gros pôles. Le début, c'est la Chine avec les 10 rois des enfers, dont on apprend qu'en fait le bouddhisme est déjà là pour manifester en fait une transformation. Le problème avec cette exposition, c'est que si vous êtes un peu inquiet avec la vie que vous vivez, il faut vous dire que l'au-delà est pire, hein, grosso modo. Oui. Donc tout a une réincarnation, sauf que parfois il faut passer par des punitions, eu égard à la vie qu'on a eue. Donc on a ces déclinaisons qui sont faites d'un pays à l'autre. Et puis on a des gros endroits d'articulation où on rentre dans des images, l'arbre à épines. Alors si vous avez trompé votre femme, c'est l'enfer. Il faut monter, se déchirer sur sur le porte des enfers, parce que c'est en plusieurs successions. Et puis vous avez un deuxième temps où là, si vous êtes attentif sur le côté droit, près d'une simèse, il y a une main qui sort, puis une tête qui sort. Donc là, moi, j'étais un petit peu angoissée. Je n'aime pas les gens qui sortent comme ça, très lentement, de derrière les murs. Et puis, j'ai quand même beaucoup apprécié cette zone de veillée, la veillée des 1000 bougies, je crois. Enfin, je me trompe peut-être. La veillée aux 100 bougies, c'est mieux. Vous avez des ombres chinoises. Et puis ensuite, vous allez avoir des kakémonos. Donc ce sont des estampes qui sont les yurés sont en fait à taille humaine, hein. Vous avez cité cet art de la figure, mais qui sont sur des kakémonos, c'est-à-dire des choses qu'on accroche, des objets volants, on va dire. C'est toute la tradition aussi avec l'estampe japonaise. Et là, c'est la salle de ce que j'aime le plus, le fantôme d'Oiwa. Je ne sais pas comment il faut dire, d'Oiwa. Cette femme, en fait, qui était une sublime geisha. Non, c'était une sublime joueuse d'instruments, peut-être. Enfin, une femme sublime. Et son mari de samouraï déclassé la pousse au suicide. Mais ça ne va pas aller. Il va être hanté, ce mari, par cette femme qui l'a conduite au suicide. Et il va aller jusqu'à tuer sa nouvelle compagne. Mais elle est représentée avec un œil, et qu'on voit dans le cinéma japonais notamment, cette figure qui apparaît comme ça. Mais alors moi, dès qu'il y a un œil, vous le savez, Arnaud, je vous l'ai déjà fait le coup la semaine dernière. Maintenant, je laisse la parole à Anaëlle Pijard.
La semaine dernière et depuis une quinzaine d'années, carrément. Anaëlle Pijard, est-ce que vous avez eu peur dans le train fantôme?
J'ai eu très peur.
Est-ce que ça vous a plu?
Écoutez, oui, parce que ce sujet est quand même formidable. Ce sujet est magnifique.
Mais ça peut se rater quand même.
Mais ça peut se rater.
Louons toujours les expositions bien faites.
C'est loin d'être raté. Il y a un article dans le Phnom Penh Post, donc le journal de Phnom Penh, on suppose, qui raconte très sérieusement.
Vous avez un habile sens de la déduction. Hein. C'est assez impressionné, Anaëlle.
Qui raconte très sérieusement les troubles causés par des fantômes dans une maison abandonnée, sous l'angle d'un fait divers. Donc en fait, on s'aperçoit que parler des fantômes dans cette exposition, c'est une manière de parler du temps présent. Et on voit toute l'ambition de cette exposition qui aborde quand même 400 ans d'histoire dans tout le continent, de la Chine, le Japon, la Corée, la Thaïlande, même un petit bout d'Inde et de Vietnam. Pour moi, c'était un peu beaucoup, pour dire la vérité. Et je trouve que l'exposition est quand même très longue et qu'à la fin, on se perd un peu dans les circonvolutions de toute cette typologie de fantômes, puisqu'on voit ces apparitions successives, mais qui est très bien faite, des fantômes stars les uns après les autres. Effectivement, la salle des 100 bougies est très belle. Il y a aussi un beau passage avec une femme chat en ombre chinoise, justement, qui s'agite sur un fond blanc. Je trouve que...
Enfin,
sur
assez logiquement.
Fond blanc chinoise. Je trouve que la partie contemporaine, puisqu'elle existe, qui est complète, enfin qui fait partie du projet de l'exposition, est traitée de manière un peu ambiguë puisqu'il y a ces commandes faites à des studios de décors de films gore thaïlandais, et on apprend que les Thaïlandais ont un style particulièrement gore, et c'est vrai, qui apparaissent. Il y a par exemple, Corinne parlait de Oiwa, mais il y a aussi Fikra Sue, qui est une femme dont les intestins sont séparés de sa tête et qui clignote, dont on a une sorte de modèle comme ça.
Elle ne clignote pas tout le temps, Annaëlle, ça, je
les ai vus clignoter, chère Corinne. qui se mélangent, donc il y a ces modèles qui sont des modèles de décors de cinéma, qui se mélangent, ou qui sont éventuellement aussi des figurines qu'on voit dans des photographies, dans des décors naturels, qui se mélangent avec des œuvres contemporaines, qui sont, à mon goût, peut-être pas les meilleures. Il y a par exemple un tableau de Anupong Chantorn, où on voit deux moines avec des becs d'oiseaux, qui n'ont pas ébloui.
Oui, mais ça, c'est le projet aussi qui veut ça. D'ailleurs, dans toutes ces expositions historiques, la partie contemporaine est souvent la plus faible.
Exactement. Le mérite de l'exposition est de vouloir embrasser l'ensemble. Il y a l'air retrait.
Mais non, mais pour dire encore une fois que le projet, on l'a dit, donc couvre un horizon géographique immense, une période quand même, on l'a dit, début 18e jusqu'à aujourd'hui, même avant, mais le gros, et vous l'avez dit, c'est le moment où la figure du fantôme est vraiment précisée. Mais ce qu'on voit quand même dans la dimension plus contemporaine, notamment à travers le cinéma, il faut citer Stéphane Duménildo, qui est journaliste au Cahier du cinéma et qui est le conseiller cinéma pour cette exposition. Donc il a fait un gros travail. Mais en tout cas, on comprend mieux la part toujours très importante prise par les fantômes dans les films venus de cette région du monde, et notamment dans les films japonais qu'on voit peut-être plus en France que d'autres cinématographies, mais parce que les fantômes font partie du quotidien et au contemporain, et aujourd'hui encore, et ça c'est quand même une chose. On regarde, vous en parliez tout à l'heure, Florian Guettet, avec nos yeux européo-centrés, des choses qui sont qui font partie de la vie de tous les jours.
Mais oui, c'est Corinne ça. Rondeau. C'est ce que vous dites et ce que disait en partie au début Florian, c'est vrai. En fait, on voit à quel point l'Asie a conservé sa tradition. Et à travers les objets pop, les objets qui sont du masque, qui passent à travers des formes populaires, effectivement, le kabuki, le no, mais à d'autres formes, le cinéma, évidemment. Et je trouve que cette exposition, elle est très intéressante pour nous, parce que culturellement et socialement, elle est en train de nous dire, tant que vous vous éloignez de vos archétypes traditionnels, qui sont les croyances peut-être les plus stupides pour certains, vous oubliez, en fait, de les faire traverser même la société dans laquelle vous êtes. Et quand on voit le kappa, qui est une petite figurine infernale qui donne aussi son nom au kappa maquis pour manger des maquis aux concombres, eh bien, ce qui vous apparaît comme un manga, puisque le manga apparaît quand même chez Okuzai, il faut arrêter avec ça. Je trouve que l'image que renvoie cette exposition pour nous, c'est de voir à quel point l'importance de la tradition, la conservation de figures, même si elles sont transformées, et conserver. Et c'est bien de conserver son nom. Pardon.
Vous arrêtez de taper ce micro aujourd'hui, Corinne Rondeau.
J'ai envie de taper ce micro, tiens. Je vous donne la parole.
Florian Guettet.
Oui, puis je crois aussi qu'on peut décentrer notre regard occidental en voyant ça, parce qu'il y a quand même plein de ponts à faire.
Oui, c'est très important.
Il y a vraiment plein de ponts à faire. L'enfer comme le supplice de torture, finalement, on se rend compte que c'est là aussi. Les lois, la réincarnation et la rétribution des âmes. Voir ce mythe du moine Mulian, je sais pas comment on dit, mais qui peut rejoindre très vite le mythe d'Orphée avec cette vision qui permet d'aller aux enfers. Donc il y a quand même comme ça des points à faire qui fait qu'on se sent pas tout à fait perdu. Et effectivement, jamais l'exposition ne cède au folklorisme. On n'est jamais dans ce truc-là. Et il me semble même que sous cet aspect très léger, très un peu pétillant parfois que peuvent représenter ces œuvres ou ces objets, il y a quand même une fonction exutoire, parce que dans le bouddhisme, on nous dit la mise en visibilité du phénomène de la mort, c'est le meilleur moyen de conjurer l'angoisse de la mort et de s'y préparer, donc de voir des corps en décomposition.
Pas, hein.
Exactement.
Il refoule pas.
On n'est pas là-dedans. Le corps en décomposition, la prise de conscience de la fragilité de la vie, etc. Et bien finalement, même le cinéma de série Z mène sur ça et a presque une vocation spirituelle. Un dernier mot quand même pour dire que effectivement, les fantômes sont quand même beaucoup des femmes, et on a eu quelques exemples là, mais la mère à l'enfant Lubumé au Japon, Mademoiselle Nak en Thaïlande, qui est le plus célèbre des fantômes, les ogresses, etc. Les femmes en prennent un peu pour leur grade.
Anaël, on finit avec vous.
Le mérite de l'exposition, effectivement, de ce caractère hybride, au fond, d'aller, le mérite d'aller dans toutes ces directions, de pouvoir aller de l'extraordinaire manuscrit de Framalai du XVIIe siècle, avec des monstres incroyables, un magnifique film de 64, avec, où on voit une femme errante dans des roseaux de Kaneto Shindo, et en même temps, des figurines de manga complètement grotesques. Et il y a un point sur lequel je me suis interrogée, c'est l'absence, par exemple, d'Apichapon de Veracetacul et d'une tonalité un peu plus silencieuse et un peu plus...
Il est dans le catalogue.
Il est dans le catalogue, mais il n'est pas dans l'exposition. Et cette tonalité silencieuse, je me suis demandé pourquoi elle n'était pas là. Voilà.
Bon, c'était bien d'aller vers beaucoup de choses qu'on connaissait moins aussi.
En fait, il est dans les yeux rouges de Frère Rick.
Bah ça, oui. Voilà. Dans les yeux rouges, évidemment. Bon, beaucoup de choses à voir, vous l'avez compris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans Enfer et Fantômes d'Asie, c'est jusqu'au 15 juillet. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et le catalogue lui est coédité par le musée et par Flammarion.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
La troisième exposition au sommaire de cette dispute est un duo d'artistes pas forcément attendus ensemble, Tacitadine et Julie Merretou. Les œuvres de Tacitadine, actuellement trois expositions à Londres, à la Royal Academy, à la National Gallery, à la National Portrait Gallery, c'est pas rien. Julie Merretou, on l'a vu dans des grandes rétrospectives récemment à Porto, à Santander, ce sera Los Angeles l'an prochain. Bon, bref, des artistes évidemment majeurs, mais c'est à Paris qu'une exposition réunit pour la première fois le travail de ces deux amis de longue date. L'anglaise et l'américano-éthiopienne ont un travail, on va dire formellement, quand même assez différent. Elles cherchent, avec plusieurs médiums pour Tacitadine et par le biais de toiles souvent monumentales pour Merretou. Que se passe-t-il donc dans cette exposition commune à la galerie Marianne Goodman? Tacitadine, Julie Merretou, Marianne Goodman, Corinne Rondeau.
Quel bonheur!
Quel quatuor de femmes! Hein.
Sans moi! Non, alors écoutez, oui, effectivement, on peut imaginer que c'est une drôle de rencontre, et en fait, non. D'abord parce que la première salle, enfin au premier niveau, on a un grand format de Merretou, et puis on a 9 séries d'éclipses de Tacitadine. On se dit, puis dans le retour, on n'a rien dans le dos, on se dit, oh, c'est bizarre, c'est un peu froid. Moi j'étais un petit peu sur le et puis c'est toujours merveilleux. Puis vous descendez en bas, évidemment, et puis vous avez 45 monotypes de l'une, 45 monotypes de l'autre, qui représentent les 90 ans de Marianne Goodman. Un accrochage impeccable qui est fait par les artistes elles-mêmes, où vous avez d'un côté des monotypes encre noire par Julie Merretou, et de l'autre, vous avez des cartes postales avec des pressions de couleurs qui ont été faites. Donc c'est toujours, évidemment, comme c'est des monotypes, c'est unique. On est d'accord, c'est un procédé d'impression unique. Et on remonte quand même, hein. Et je dois dire que vous disiez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne les réunit pas. Moi, je trouve que quelque chose les réunit pour toutes les deux, c'est la disparition. On sait que Tacitadine a toujours été obsédée par la disparition. Elle travaille en analogique. Et Merretou, alors moi, j'aime beaucoup son travail parce que je me rappelle ses dessins et ses tableaux où il fallait toujours s'approcher pour voir des structures, des architectures, des traits, des dessins très fins derrière. Et là, effectivement, son premier tableau m'a un petit peu mis 2 mètres en arrière en disant, bah, waouh. Mais il y a toujours chez elle une manière de faire du palinceps. Il y a toujours chez elle quelque chose qui est derrière et qu'on ne voit pas. Donc, elle, d'un côté, Tacitadine montre quelque chose du temps, c'est quelqu'un de la patience, alors que Julie Merretou, c'est plutôt une punk, on va dire. Elles ont toutes les deux une manière de... l'une, c'est le temps, parce que Ta citadine a un rapport à une recherche de la profondeur du temps. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui va disparaître? Et malgré tout, c'est quelqu'un dont on sait ses archives qu'elle a déjà montrées, que ce soit les migrants, que ce soit les guerres, que ce soit des moments de crise sociale aux États-Unis, peu importe, enfin des images chocs, dont elle se sert pour travailler. On ne sait pas ce qu'il y a sous cette image, hein, sous ce tableau d'ailleurs. Hein. Et ce tableau qui est de la peinture, il est aussi fin que si c'était une projection à encre numérique. Et il y a quelque chose d'un travail, du mouvement. Moi, j'ai toujours été fascinée par le travail de Julie Mertoux, que ce soit sur petit format ou grand format. Elle a toujours un mouvement qui va vers la droite et en fait, la vision vous ramène toujours sur la gauche. Et donc, ça crée chez moi un rapport spatial très fort. Et je trouve que la rencontre de ces deux artistes qui se connaissent effectivement depuis très longtemps, dont l'une traîne quelque chose du temps et l'autre de l'espace par ce mouvement, je trouve que c'est la rencontre la plus belle et la plus, je dirais presque, amoureuse à l'égard d'une galeriste qui a quand même qui nous met encore des artistes qu'on a envie de voir et de continuer à voir. Et vous savez qu'en bas, vous ne partirez pas sans une Mertoux si vous achetez une Tacitadine. Et je trouve que ce qui est merveilleux, c'est que celui qui va acheter l'une et l'autre, il aura un bout de l'idée du temps et de l'espace de l'une et deux artistes qui seront un peu du temps et de l'espace de Marianne Goodman. Donc je trouve cette exposition à la fois extrêmement stimulante sur son rapport qui est optique, vraiment visuel, parce qu'il y en a une qui vous demande de se rapprocher, l'autre de vous éloigner. Il y a une vitalité chez Julie Mertoux qui est incroyable. L'autre, elle a une patience. C'est mon côté un peu bourgeois chez Tacitadine, je dois bien dire, qui me conduit toujours chez elle. Mais Tacitadine, malgré tout, les 9 éclipses, c'est vraiment le rapport entre ce que je peux voir et ce que je ne peux pas voir. Et quand on sait que son dernier film, c'est sur Oedipe, ben, j'aime bien que ces femmes soient des bâtons pour me convier à voir les choses.
Florian Guettet.
Corinne parle de disparition et elle a raison, effectivement, ou alors d'une vision en négatif, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais en fait, quand on rentre dans l'exposition, il y a sur la gauche deux petits photos instantanées. On va pas citer de marque, mais enfin, ce sont des mini-formats de ça, où on voit en fait des sortes de d'autoportraits accidentels. L'une est prise en contre-jour, l'autre est prise avec beaucoup d'ombre. Et finalement, on les a de façon parcellaire. On ne sait pas exactement au départ si ce sont véritablement des autoportraits d'artistes. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une image comme ça en creux qu'il faudrait venir voir, mais qui ne se donne pas directement. Alors effectivement, quand on retrouve les éclipses solaires de Tacitadine ou quand on retrouve la peinture palimpseste de Julie Mertoux, on a forcément ces références-là qui viennent en tête. Et puis quand on descend, on voit effectivement ces hiéroglyphes. Alors cet accrochage, moi j'ai effectivement beaucoup aimé cet accrochage. C'est à la fois une référence au Salon des Beaux-Arts très ancien, sauf que on n'est pas vraiment à touche-touche non plus.
Bon, c'est pas vraiment. C'est pas les tapissiers qui vont.
Voilà, exactement. Il y a quelque chose de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus dynamique là-dedans. Et puis ça pourrait ressembler. Et d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Mélodie quelque chose le titre. Hein,
si vous avez. Monotype Mélodie.
Ouais. Et effectivement, il y a quelque chose de très musical là-dedans. On a l'impression d'avoir une ligne de partition avec des notes qui sont à do, à fa, à la, et qui nous entraîne avec elle. C'est assez vertigineux parce qu'en fait, quand on commence à regarder les murs, eh bien, on rentre dans une sorte de boucle qu'on a un petit peu du mal à quitter.
Les murs tombent littéralement.
Ah, exactement.
Alors, on peut voir quelques images de l'accrochage sur le fil Twitter.
C'est vraiment une œuvre en soi, hein, je trouve, cet accrochage-là. Ouais. Et c'est vrai que j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 5 ou 6 tours.
Les révolutions.
Et à chaque fois, à piquer, à aller voir, parce que je trouve que ça invite quand même à la marche et qu'on ne peut pas non plus être dans la pose statique. Donc ça, c'est particulièrement réussi et ça donne une tonalité, une sorte de célébration assez joyeuse à cette rencontre-là. Je trouve que Tacitadine devient moins peut-être méditative alors que voilà, elle a des thèmes très cosmiques, très profonds. Mais là, d'un coup, ça les incarne, ça les rend quand même effectivement plus vivants. Et de l'autre côté, parfois, on va dire la peinture un peu plus austère, on va dire de Julie Mertoux. devient plus jovial, plus coloré effectivement parce que Tacitadine a choisi vraiment de caviarder en tout cas de peindre de par touche par petite aplat d'encre de couleurs et du coup ça vient effectivement rendre le tout beaucoup plus appuyé dans la chromie hein. Et je trouve que le dialogue marche formidablement.
Alors, vous opinez, Annaëlle Pigeard.
Oui, c'est un hommage d'une extrême délicatesse de ces deux artistes à leur galeriste. Peut-être un mot sur Marianne Goodman, qui est vraiment une guerrière, dans le meilleur sens du terme, de la scène de l'art international, qui a commencé par des éditions d'artistes et qui finalement a ouvert sa galerie sur le tard, à l'âge de 50 ans, en 77 à New York. Puis elle a ouvert successivement à Londres et à Paris. Et chaque fois, elle a fait des choix extrêmement judicieux. Elle a regardé les artistes européens dans les années 80, l'Arte Povera, Richter ou Joseph Beuys. Elle a aussi regardé des jeunes, comme Steve McQueen, aujourd'hui comme Dan Vo, Jan Vo et Tino Segal, ce qui est quand même vraiment remarquable. Enfin, elle est restée d'une acuité totale. Elle a réussi à montrer des Américains aux Français, ce qui était aussi une manière tout à fait intelligente. Donc voilà, c'est un hommage à cette figure-là. La relation entre les deux artistes est une relation effectivement très ancienne. Ta Citadine a même fait un film qui montre Julie Méretu, où on la voit dans son atelier au travail. Et en fait, on peut avoir des images comme ça, de souvenirs de ce film où on voit Julie Méretu sur un grand échafaudage en train de peindre alors ses tableaux des séries antérieures, des grandes architectures. Enfin, des paysages d'urbanisme, des morceaux d'urbanisme. Alors, effectivement, l'exposition est en plusieurs temps. On rentre. Ces deux autoportraits sont formidables à l'entrée de l'exposition. Moi, à vrai dire, je les ai vus en sortant comme une conclusion, plutôt. Il y a ces deux temps dans la première grande salle de l'exposition où on voit le rythme très rapide du tableau de Julie Méretu, dans lequel, qui est, il faut le dire, très différent de ses tableaux précédents. Et on a l'impression d'un tableau abstrait pour commencer. Et puis quand on le regarde, on voit apparaître des fragments de corps, un bec d'oiseau, une épaule. Il y a comme ça des images qui semblent surgir à la surface de la toile. Et puis il y a l'éclipse qui est un thème très ancien dans le travail de Ta Citadine et qui montre au contraire ce calme. C'est pas une question de sérénité, c'est vraiment une question de calme dans le travail de Ta Citadine et qui montre cette fugacité du temps. Enfin, qui montre la fugacité du temps. En bas, je trouve que c'est aussi un propos sur ce que c'est qu'une galerie et ce que c'est que le fait de collectionner. Parce que pour la partie de Ta Citadine, en tout cas, Ta Citadine n'utilise jamais de support neuf. En fait, elle travaille toujours, les éclipses sont sur de l'ardoise, on voit, et c'est des ardoises récupérées. Elle avait montré à la Documenta des grands tableaux avec des montagnes qui étaient aussi sur des très grands blackboards, elle disait, mais enfin, c'était aussi des tableaux noirs récupérés. Ici, ce sont les monotypes sont faits sur sa collection de cartes postales, puisqu'elle a une collection de cartes postales très importante, et on voit apparaître, quand on se penche, qu'on vient d'une œuvre à l'autre, on voit apparaître des séries. Alors, il y a par exemple les séries des fleurs, il y a toute une série avec des... Il y a beaucoup d'humour, en fait, dans ce... Et au fond, toute cette conversation... Oui, enfin, toute cette exposition, toute cette conversation, c'est un bon lapsus, apparaît en bas comme un grand éclat de rire entre les deux, un grand éclat de connivence entre les deux. Il y a par exemple dans les séries de cartes postales, une série qui s'appelle des pommes de terre de celles qu'on fait pousser dans le Maine aux États-Unis, et on voit une énorme pomme de terre complètement disproportionnée sur un petit wagonnet de chemin de fer. Il y en a plusieurs de cet ordre-là. Il y a un petit cochon qu'on voit réapparaître, et en fait, la peinture dessus. Il y a un petit cochon qui il est indiqué, tu ne nous feras pas croire que tu reviens de la réunion contre l'alcoolisme, alors qu'il n'a pas l'air en très grande forme, appuyé contre son réverbère. Voilà, une collection, c'est quelque chose qui est un objet vivant et qui est un objet plein d'humour et plein de vie.
Tout petit mot, Corinne
Rondeau. Et puis c'est un don, quand vous prenez des choses qui sont à vous, c'est un don, c'est un joli cadeau aussi.
Oh, cette douce voix pour conclure.
Je peux taper le micro ou
pas ? Non, non, pas, non, non. Après qu'on ait rendu l'antenne dans quelques instants maintenant, en rappelant que les expositions, galeries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et elles sont ici très bonnes, sont libres, d'entrée, gratuites, qu'on est bien accueilli chez Marianne Goodman, et que donc il ne faut pas se priver d'y voir jusqu'au 20 juillet deux des plus grandes artistes de notre temps. Voilà, chanceux que nous sommes de pouvoir passer dans cette galerie Marianne Goodman. Camille André, après avoir vaillamment live-tweeté comme tous les soirs, vient non pas se reposer, mais pour cet ultime défi, celui du jeu de la dispute, nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
Alors la question hier était: quelle découverte archéologique fut faite au hasard en 1940 par Robo, un chien accompagnant un groupe de quatre jeunes promeneurs périgourdins? Et il s'agit de la grotte de Lascaux.
Ce soir, on fait gagner des coffrets DVD du feuilleton la série de Rainer Werner Fassbinder, 8 heures ne font pas un jour. C'est évidemment distribué, édité par Carlotta. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, quel acteur fétiche de Fassbinder incarne le rôle d'Harald dans 8 heures ne font pas un jour?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast en passant sur cette page. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Raphaël Léris, Grégoire Le Ménager et Laurent Nunez. À notre sommaire, le tonneau magique de Bernard Malamud, 1984 de George Orwell, une nouvelle traduction due à José Camoun, et puis enfin Scherbius et moi d'Antoine Bello.